Voici maintenant l'histoire complète du match. Le Canadien se frotte à une équipe, les Blackhawks de Chicago, qui ont vécu des choses un peu semblables qui sont arrivées à Montréal. Évidemment, pour des raisons très différentes, c'est une crise qui a provoqué cette brisure chez les Blackhawks de Chicago, tandis que chez le Canadien, ce sont des blessures à des joueurs clés et aussi des joueurs qui ont été frappés par la COVID, qui ont envoyé le Canadien au fond du classement général de la Ligue nationale. Dans le cas des Hawks, c'est une réalité un peu différente. Ils jouent devant leurs partisans. C'est la soirée Andrew Shaw ce soir à Chicago. Shaw qui a joué pour les deux équipes. C'est évidemment la raison pour laquelle on a choisi cet affrontement pour honorer la période où il a passé, où il a honoré le chandail des Blackhawks de Chicago. Les Blackhawks sont probablement motivés par cette cérémonie au cours de laquelle Shaw a été bien applaudi chaleureusement par les spectateurs là-bas. Ils connaissent un très, très bon départ. Et à 7 minutes et 49 secondes, Kubalik va passer entre les deux défenseurs du Canadien pour aller déjouer Montembeau avec un tir qui passera par-dessus sa mitaine. C'est son 7e de la saison. Des passes à Taze et au défenseur Stillman. Les Blackhawks mènent 1-0. Le reste de la première période appartiendra complètement aux Blackhawks. Le Canadien ne touchera à peu près pas la rondelle, de sorte qu'après cette période, cette très difficile période, le Canadien n'a que 3 tirs au but et même pas de chance nette de marquer. Il y aura un renversement de situation en deuxième. Jeff Petrie, qui n'avait pas marqué de but jusqu'à maintenant, va profiter d'une attaque qui s'est bâtie petit à petit avec les défenseurs qui sautaient dans l'attaque pour marquer son premier de la saison de Romanov et Poehling à 12 minutes 41 de la période médiane. C'est donc l'égalité 1-1. À la fin de la deuxième, le Canadien concrétise son retour dans le match et lors d'un avantage numérique, sa spécialité, Hoffman est au cercle gauche. Il va battre Fleury avec un tir précis grâce aux passes de Caulfield et de Chiarot. Et en fin de deuxième période à 18-16, le compte est porté 2-1 en faveur du Canadien. L'avantage numérique va faire mal une fois de plus. Patrick Kane, qui joue un match extraordinaire ce soir, est isolé au cercle. Il va battre le gardien Montembeau avec un tir très typique des jeux de Patrick Kane. Il réussit son 8e but de la saison. À Gustafsson et Debrincat ont récolté les passes. À 2 minutes 21 de la troisième, c'est l'impasse à nouveau. 2-2 entre ces deux équipes. On va rester à l'égalité après les 60 minutes réglementaires et nous irons en prolongation. Lors de cette période de prolongation, une attaque musclée au filet du Canadien de Montréal de Kourachev va se terminer par un contact violent entre Hoffman, qui tente de défendre la position et défendre bien sûr son gardien, mais comme il n'y a plus d'espace et qu'il n'y a plus possibilité de freiner, Hoffman se trouve à plonger accidentellement dans son gardien. Le filet est sorti de ses amarres et la rondelle pénètre juste après que le filet soit sorti de ses amarres. Les arbitres vont réviser la situation. Alors d'abord, l'arbitre Morton dit qu'il y a but, ce qui est un peu discutable parce que l'interprétation des officiels, c'est que la rondelle a pénétré la ligne rouge avant que le filet quitte ses amarres. Cependant, l'arbitre dit « Attention, c'est pas pour ça, c'est un hors-jeu qui semble la problématique. » Alors là, il y a appel pour le hors-jeu. Les juges de ligne vont ensuite réviser la séquence et on va déterminer que l'attaquant Kourachev n'a pas causé de hors-jeu à la ligne bleue du Canadien, même s'il est entré avant la rondelle, son corps passant avant la rondelle dans le territoire offensif, mais les arbitres ont jugé qu'il avait le contrôle de la rondelle lorsqu'il est entré. Alors le but de Kourachev compte et le Canadien subit la défaite. Les tirs au but par Montréal, 3 en première, 17 en deuxième, 8 en troisième et 1 en prolongation. 29 lancés sur Marc-André Fleury. 25e départ, Fleury s'offre une deuxième victoire cette année contre le Canadien. Sa 12e cette saison. Les Blackhawks avaient 13 tirs sur Montembeau en première, 6 en deuxième, 11 en troisième et 2 en prolongation, dont un qui a été payant. 32 tirs au total. Montembeau a donné 3 buts ce soir à ses adversaires. À sa 13e sortie avec le Canadien, il encaisse malheureusement pour lui une troisième défaite en prolongation. Les 3 étoiles de la rencontre de ce soir, la 3e étoile a Marc-André Fleury, qui a permis à son équipe d'aller en prolongation ce soir. La deuxième étoile du match au gardien du Canadien, Samuel Montembeau. Et le joueur du match, et c'est l'attaquant Kourachev, comme le veut la tradition, qui marque le but de la victoire dans une situation un peu particulière quand même. Son but va conduire les Blackhawks à la victoire. 3-2 en prolongation. L'équipe de Chicago a eu raison du Canadien de Montréal. Notre prochain rendez-vous, à ne pas manquer, lundi en après-midi, alors que le Canadien visitera l'entraîneur André Tourigny et les Coyotes de l'Arizona. L'émission d'avant-match est prévue partout au réseau Cogeco à compter de 15h lundi après-midi. Danny, quelle défaite crève-cœur.
Je te le dis, Martin, je suis estomaqué par la décision. Sur le hors-jeu, ça va, mais c'est discutable. Mais sur le but accordé quand la rondelle traverse la ligne des buts, le but pour moi a déjà quitté ses amarres.
Danny, on est prêt avec Alexander Romanov qui est au podium.
Hey, sorry if I came in late here. I'm just wondering, what's your reaction to the fact that, you know, good hits right now, you lay a good hit and it has to be responded with a fight. What do you think about that?
That's hockey. Nobody like to get hits. That's why they react like that. So I was ready to drop the gloves, but like I'm ready.
Thank you, Romy.
Thank you.
Thank you.
Voilà donc pour Romanov. Courte réponse, Danny, dans le cas de Romanov. Et on en a perdu un petit bout, on s'excuse. Là. C'est un petit problème technique qui m'empêche de vous traduire exactement ce qu'il a dit. Parce que moi, vous avez entendu, mais pas moi.
Il a dit qu'il était prêt
à jouer, oui.
Non, lorsque Carpenter laissait tomber les gants.
Sauter sur lui.
C'est ça. Ouais.
Bon, voilà. Alors, on aura un prochain intervenant et c'est le défenseur Jeff Petrie qui s'amène au podium.
On va prendre une première question, first question. Eric Engels.
Hey Jeff, what kind of energy did Alex Romanov inject into this game with that hit?
That's what Romy does. You know, he catches a guy like that. You know. Seems like once a game, and you know, it does bring energy. At different points of the game, getting the bench live again, and that's something that he does pretty much game in and game out.
Jean-François Chaumont.
Hi Jeff, I'm just curious to know, what was your reaction in the room regarding the game-winning goal? Were you surprised to see that? Finally, they decided it was a good goal.
It looked like on the replay to us that, when the net started to come off, the puck was still above the goal line. So I don't know exactly how they judge that, but, it's obviously a decision that's not made by us.
Marc-Antoine Godin.
Jeff, could you explain to me on the power play, how crucial a good player on the bumper really is, because it seems as though finding a good bumper on the power play unit has been an issue for this team, not only this season, but for the past few years.
Yeah. I mean, it's, it makes that offside forward, sag down and take that away, or the strong side forward. So it's having an option there. They can't, take away the top and that middle. So having that somebody there with a quick release to use that to keep teams honest and open up the top or open up the seam across. So it's definitely an important role there.
We'll take three more: Martin McGuire, Patrick Friolet, and James Murphy. Martin, you're up.
Jeff, you guys did a lot to come back in this game. You score a goal. It was a tight game. How tough to swallow is it, a decision like that at this point?
It's tough. I think we started off slow in the first period, and then we got better as the game went on. And, I think, not to get that extra point and come out of here with two, it is just tough to swallow. And, you know, I think it's, you know, it's something that we got to just keep focused, keep grinding. And, you know, eventually these games are going to go for us.
Patrick.
Hey, Jeff, on a positive note, obviously you scored your first game in the season. Just maybe if you can just share the feeling, the relief of finally finding the back of the net.
Yeah, it is a big relief. And, you know, to finally get one after, you know, close to 30 games. So, you know, hopefully that kind of jumpstarts things. You know, there's still a lot of stuff that personally I need to, you know, continue to work on. And, you know, so hopefully that's, you know, kind of a boost, confidence for me and, you know, helps have a strong second half.
James Murphy.
Hey, Jeff, I'm just wondering, you know, after the first period there, you guys were outshot pretty bad there in the dressing room, what the vibe was like and was something said to kind of get you guys going again, because obviously there was a lot more energy from there on.
Yeah, I mean, we knew that that wasn't good enough and that wasn't gonna, you know, give us a chance to win a game, you know, playing three periods like that. So, you know, I think, you know, coach said it and other guys said it. We needed to be better, continue to move our feet. And, you know, I think we did that, you know, for the majority of the last two periods.
Thanks, Jeff.
Voilà donc pour les commentaires d'après-match du défenseur Jeff Petrie. Évidemment, tu sais, les joueurs sont très mauvais jeux, Danny, quand il arrive des situations comme ça. Ils sont au banc. Bon, ils vont regarder le tableau indicateur, là, puis souvent pour leur demander...
Par rapport au but, là?
Par rapport au but. Mm-hmm. Alors, Petrie, lui, pensait que l'enjeu, là, c'était évidemment le contact avec le gardien. C'est sûr qu'on aurait dû refuser à ce moment-là. Et si on n'avait pas refusé à ce moment-là, on ne serait pas rendu à l'analyse du hors-jeu.
Ben oui, c'est ça, exactement. Moi, écoute, là... encore une fois, là, l'antichambre roule, ils l'ont montré, puis écoute, je comprends pas.
Moi non plus.
Je comprends pas. Aidez-moi quelqu'un, je comprends pas.
Puis c'est dur, ce que je formulais comme question à Petrie tout à l'heure, c'est dur à avaler, parce que là, le Canadien revient de l'arrière après une première période très moche. Petrie l'a dit. On va revenir tout à l'heure parce que Suzuki s'installe au podium pour répondre aux questions des médias.
We'll take our first question from James Murphy.
Hey, Nick, obviously not the best decision there and, you know, not the way you want it to end, but what did you feel about the effort after the first period?
Yeah, we had a little chat after the first period. I don't think anyone was really happy where our play was at, but bounced back in the last two periods that we had a really good chance to win that game and just a tough bounce at the end there.
Eric Engels.
Nick, how would you explain Alex Romanov's kind of evolution from last year when he first got here to now in terms of the way he brings to your team?
Yeah, he's done a great job ever since he came here. Just competing every day. He brings that energy. It's a lot of fun to be around him. And right when he gets into the lineup, he's bringing the energy to the team and had a great hit. And yeah, really helped us out, earned us a power play, and we scored on that. So he's been a big piece so far. And obviously, he's got a really good future ahead of him.
Jean-François Chaumont.
Hi, Nick, just before the game, you received the news that you're going to the All-Star game in Vegas. I know it might be a strange year with the kind of season the Canadians are arriving right now, but what's the feeling for you on a personal note to know that you're going to be playing your first All-Star game?
Yeah, it's definitely an honor to represent Montreal at the All-Star game. There's a bunch of guys that could have went for sure, and I'm just lucky to be going. I've always wanted to be in the All-Star game, just watching it as a kid. So I'm excited to get there and enjoy the experience.
We'll take two more, Martin McGuire and Marc-Antoine Godin.
Nick, I know that you guys don't control the referee's decision, but can you share with us your opinion on the last call, on the last goal?
Yeah, it's just a I don't know. I think I've seen that called both ways. I feel like just two guys colliding, taking out the goalie, and puck crosses the line where the net would have been. So, yeah, we don't control that. It's up to the officials and I think Toronto. So there's not much we can do. We just hope and wait. Hopefully they don't count it in.
Antoine?
Merci, Charles. Hello, Nick. Congratulations on your nomination to the All-Star Game. What do you see in the progress of Ryan Poehling lately?
Yeah, he's been playing really solid since he got back with us. He plays a great 200-foot game. I think he's getting a lot more confident with the puck, winning puck battles. I think that was something that he wanted to go down to Laval and work on, and he's playing with a lot of confidence right now. He's fun to play with on the power play. He's winning big faceoffs too. So he's done a great job of getting better with us. And like Romy, they got good futures here.
Alors voilà pour l'essentiel des propos de Nick Suzuki. Beaucoup de questions générales là, dans cet après-match, là, mais essentiellement, il a répondu, a réagi à son invitation qu'il a reçue pour représenter le Canadien au match des Étoiles. Pour lui, il va le prendre. Là,
ben, c'est sûr, il est fier.
C'est fier. Première participation en carrière à un match des Étoiles. On a bien pensé qu'il n'aurait pas lieu, ce match des Étoiles, mais que voulez-vous? Je pense qu'à Vegas, on est sur une autre planète le 5 février prochain. Il y aura un match des Étoiles. Je l'ai questionné sur la dernière décision, puis il dit ce genre de décision-là, des fois, ça va des deux côtés. On a vu des choses comme ça être refusées, puis on a vu une chose comme ça être appelée. Puis on n'a pas beaucoup de contrôle sur la situation, là, mais c'est frustrant.
C'est sûr, c'est, ça les doit joueurs être très font frustrant. Attention, là, puis c'est normal.
On ne veut pas se faire mettre à l'amende.
Mais je vais le répéter, là, je comprends pas que. Parce que en plus, c'est le joueur des Hawks, Kourachev, qui va. C'est lui en glissant qui.
Il fait sortir le filet de son amarre.
Il pousse le filet et le filet va sortir de ses amarres et la rondelle entre après lui.
C'est ça. Le filet sort sur le poteau gauche la première fois et c'est Kourachev qui fait ça. Tu viens de le dire.
Fait que là. C'est pas comme si c'est le joueur du Canadien. Si ça avait été le joueur du Canadien, là j'aurais dit, peut-être que...
Mais le joueur du Canadien, lui, il rentre dans son gardien.
Oui, lui, il sort le gardien du jeu.
Parce que c'est pas vraiment Hoffman qui pousse Kourachev.
Du tout.
C'est la course de Kourachev qui se termine dans le poteau.
Il perd l'équilibre, là, parce que là, peut-être le bâton d'Hoffman, j'en sais trop rien, là, mais Hoffman, lui, il donne contre son gardien. Le gardien, écoute, il en perd son bouclier, le masque. Écoute, c'est violent comme impact. Puis, et je reviens là-dessus, c'est le joueur des Hawks qui fait sauter le filet. Mm-hmm. La rondelle entre après.
Oui.
Tout le monde est sur le dos. La rondelle entre.
Absolument.
Puis, là, à un moment donné...
Parce que c'est important de le mentionner. Il y a un premier amarre qui cède.
Oui.
On le voit au ralenti.
Oui.
Et ensuite, le deuxième amarre cède parce que là, Hoffman puis tout le monde est dans le filet.
Et c'est même pas la rondelle entre les deux amarres. Non. C'est quand le deuxième saute que la rondelle rentre après.
C'est ça.
Qu'à un moment donné, là, je dis, expliquez-moi quelqu'un là. Je m'excuse de ma naïveté. Là. Celle-là, je la comprends pas.
On se demande s'il n'y a pas un hors-jeu. Alors, on regarde la situation.
Le hors-jeu, je comprends parce que le règlement a changé.
Oui,
moi,
oui.
Tu sais, de la manière qu'on l'a vu, là, qu'ils nous l'ont montré. Bon, ça avait vraiment l'air d'un hors-jeu. Là.
Oui.
Il
n'y
avait pas l'air de contrôler la rondelle du tout. Ça,
c'est le bout de l'interprétation dans le nouveau règlement.
Oui, oui.
Tu sais, il a contrôle-tu, il a contrôle-t-il pas?
Oui.
Un peu?
Oui.
Beaucoup?
Parce que s'il avait été, comme je te disais, en patinage arrière, là, c'était évident. Là,
oui.
Parce que si tu contrôles la rondelle...
On est prêt avec Dominique Ducharme.
On va peut-être l'entendre.
Oui.
Oui, bonsoir, Dominique. Est-ce que c'est possible de nous partager ton point de vue et... les explications peut-être que tu as reçues à la suite de la séquence qui a mené au but gagnant?
Ça a l'air que c'est nous qui avons bougé le but. Moi, je vois que c'est le rouge.
Martin McGuire.
Dominique, ça doit être dur à avaler, celle-là. Là.
Mais tu sais, il y a eu quoi? On doit être 0 en 10, les appels de même. Fait que ouais. Elle est tough à avaler, c'est certain. En plus, il risque d'avoir une suspension sur un joueur encore à soir, sur un de nos joueurs, ou une amende devant l'arbitre, puis il n'y a même pas de call.
Ouais. Guillaume Lefrançois.
Tu sais, Dominique, sur le jeu aussi, ça a quand même cogné dur sur Samuel Montembeau. Est-ce que tu sais s'il était correct quand même ou y a-t-il une crainte de blessure même sur ce jeu-là?
Ah, il semble correct.
Jean-François Chaumont.
Salut Dominique, je reviens sur le but de Kourachev en prolongation. Là, qu'est-ce qui te surprend le plus, qu'on accorde le but ou qu'on juge qu'il n'y avait pas d'hors-jeu non plus sur la séquence?
Ça prend le plus, c'est qu'on soit 0 en 2 sur la séquence.
Eric Engels.
Tom, understanding obviously the circumstances that led to Romanov not playing yesterday and understanding them today because you had a player suspended and you made a change with Niku. How hard was it to kind of hold him back? You know, I know he probably understood it. He had been on the ice for a couple of weeks, but knowing his energy, it's got to be hard to hold him back sometimes.
Not that hard. I mean, I just told him he was not going. He understood. But yeah, he's a guy that has a lot of energy and thought he did a good job tonight for a guy that didn't skate much.
Last question, James Murphy.
Two, if I may, Dom, just your take on the winning goal and then also your take on, you know, Romanov having to answer with a fight there after he lays a perfectly clean hit.
On the goal, we're 0 for 2 on the calls. So I don't think we did. If we look back in the last year, I don't think we get too many. Our percentage is not too high on those kind of calls. That's for sure. It's too bad. I mean, for Romanov, you know, he's a guy that hits hard and clean, and it's part of hockey. So if you don't want to be on the ice and get hit, do something else. I mean, it was a clean hit, just hard hit. It's part of hockey, and I find that even like on that, like, is it a, you know, an aggressor or an instigator?
Merci, coach.